Lis le texte liturgique pour ce 22e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, j'ai confiance que celui qui a commencé en vous l'œuvre bonne en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai ce sentiment de vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur comme des gens qui, dans mes faits, dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, participent tous à ma joie. Car Dieu m'est témoin combien je vous aime tous dans le cœur du Christ Jésus, et je demande que votre charité abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin de pouvoir distinguer le bien du mal, pour que vous soyez purs et irréprochables au jour du Christ, remplis du fruit de la justice qui nous vient de Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'étant retirés, tinrent un conseil sur le moyen de surprendre Jésus dans ses paroles. Ils lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens qui lui dirent « Maître, nous savons que vous êtes véridique et que vous enseignez la voie de Dieu selon la vérité sans vous inquiéter de personne, car vous ne regardez pas la condition des hommes. Dites-nous donc ce qu'il vous en semble. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Et Jésus, connaissant leur malice, dit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Ils lui présentèrent un denier, et Jésus leur dit « De qui est cette image, cette inscription ?» Ils lui dirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Veuillez vous asseoir. Donc j'ai pu publier enfin le programme des retraites pour 2022. J'ai mis un papier au fond de la chapelle devant la fenêtre et j'enverrai à tous ceux qui sont sur ma liste d'adresse le nouveau programme des retraites. Donc il y aura, si Dieu veut, 6 retraites l'année prochaine. Commencez un peu une œuvre plus petite, mais chez les exercices à 22 personnes. Bon, cette année 2021, mais c'est 22 âmes, une âme c'est un royaume. Et puis, bon, ça peut être la dictature sanitaire pour arranger les choses. Donc, il y aura une retraite cette année prêchée pour la Semaine Sainte. En avril, donc, et puis après, une tous les mois. Il y aura deux en avril. 11 avril, 17 avril pour la Semaine Sainte. Puis ensuite, 25 avril, 30 avril. Puis 16 mai, 21 mai, 6 juin, 11 juin, 12 septembre, 17 septembre, 3 octobre, 8 octobre. Les gens posent souvent la question, pourquoi je prêche pas en juillet et août? Tout simplement parce que je peux pas avoir le gîte en juillet et août. Propriétaire le garde pour sa famille. Attention aussi pour ceux qui viennent à la messe régulièrement ici, donc il y a un changement d'heure, je crois, dimanche prochain, pas oublié. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche, donc changement d'heure. Aussi, je confirme donc pour ceux qui viennent à la messe ici de temps en temps que je ne peux pas toujours prévenir. Donc à partir du 14 novembre, donc, je serai dans la nouvelle maison, à 2 km d'ici. Donc ce petit hameau de Ginal. Hein. Pour ceux qui viennent et qui ne connaissent pas, qui me téléphonent, je leur expliquerai, je donnerai plus de détails. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, ce sermon en fait sera la première partie littéralement d'un sermon sur le Christ-Roi, puisque dimanche prochain, c'est le dernier dimanche d'octobre, c'est la très grande fête du Christ-Roi. Je voudrais déjà commencer un petit peu à éveiller le terrain en quelque sorte, avec cette phrase de l'évangile de saint Matthieu d'aujourd'hui qui est tellement utilisée par les gens qui ne veulent pas réfléchir contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. La fameuse phrase que l'on a tout raconté, toutes les bêtises possibles et imaginables ont été dites sur cette phrase « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Les catholiques qui ne connaissent pas les doctrines de l'Église ont utilisé cette phrase pour dire « Vous voyez, il faut bien séparer les choses temporelles des choses spirituel, des choses de Dieu. Donc, César, c'est une chose, Dieu, c'en est une autre. Et on peut utiliser aussi une autre phrase qui est souvent utilisée, un peu dans la même veine, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, les gens racontent n'importe quoi. Et comment répondre à cette objection qui semble une objection très forte? La réponse est toute simple. Prenez notre Père. Qu'est-ce que dit notre Seigneur dans notre Père? Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'entends des gens me dire, même sur l'abbé, l'Église demande simplement par notre Père que la volonté de Dieu se fasse au ciel. C'est tellement stupide. Il est évident qu'au paradis, la volonté du bon Dieu se fait. Que votre règne arrive, surtout que votre règne arrive sur la terre comme au ciel, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vient la preuve qu'on demande ici le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me dites, mais pourquoi est-ce que les catholiques modernes poussent tellement à cette séparation entre les choses de Dieu et les choses de César? Tout simplement à cause du laïcisme ambiant, à cause de ce libéralisme ambiant, où on veut en quelque sorte faire recroqueviller notre Seigneur Jésus-Christ dans le domaine purement privé. Les gens vont vous dire, on est catholique exclusivement en privé, quand on fait sa prière au pied de son petit oratoire familial, ou éventuellement à la messe le dimanche, mais dès qu'on sort à l'extérieur, on est dans le domaine public, et donc là, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire. Et qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Il a envoyé ses disciples, ses apôtres, à la conquête du monde, aller baptiser, prêcher. Celui qui sera baptisé sera, qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné. Notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples à la conquête des âmes, pas simplement dans le domaine purement privé. Le Moyen-Âge chrétien, c'est quoi? Le Moyen-Âge chrétien, c'est justement toute l'influence politique de l'Église. On a le cas, par exemple, l'exemple extraordinaire de Saint-Louis, au XIIIe siècle en France. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les apôtres et les disciples, les évêques et les prêtres et tous les missionnaires dans le monde entier, justement pour cela, pour amener toutes les âmes sous le doux joug de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire la magnifique oraison pour la fête de la propagation de la foi, qui est peut-être une des plus belles de Missel. C'est exactement ça. Ô Dieu qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée et que toutes les nations puissent vous reconnaître, vous, le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit. L'Église ne parle absolument pas du seul royaume privé de notre Seigneur, Jésus-Christ. On voit très bien dans l'histoire des missions, dans l'histoire de l'Église catholique, lorsque l'Église catholique arrivée dans une peuplade, dans un pays complètement barbare, sous le contrôle total des démons, littéralement. Mais qu'est-ce que faisait l'Église? Immédiatement, elle essayait d'avoir une influence politique. D'abord, pour pouvoir sauver, protéger et affermir la famille, tout simplement. Faut pas oublier que chez les barbares, la famille est complètement détruite. On pratique l'infanticide à grande échelle, on pratique le mépris total de la femme, le mépris total de la fidélité dans le cadre du mariage. Et qu'est-ce que faisait l'Église catholique? Tout de suite, immédiatement, sauvegarder la famille, remettre les principes chrétiens pour lutter contre le divorce, lutter contre l'avortement, lutter contre toutes ces idées modernes qui ont détruit totalement la société catholique du Moyen-Âge. Et donc, il faut impérativement promouvoir cela. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était au Moyen-Âge. Précisément parce qu'on vit dans un monde dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été mis totalement sur le côté. Qu'est-ce que cherche à faire l'Église? L'Église monte les gens au ciel. C'est le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est d'amener les gens au ciel. On n'amène pas simplement les âmes au ciel. On les fait d'un corps et d'une âme. Donc il faut travailler, si vous voulez, et sur le domaine du corps et sur le domaine de l'âme. Mais deux choses. Vous séparez l'âme et le corps, qu'est-ce qui se passe? On a un cadavre devant nous. Eh bien c'est la même chose, c'est la même chose pour la société. L'Église va donc exercer son influence dans toute la mesure du possible, malgré les persécutions, pour justement aider la société à devenir chrétienne, afin que les hommes puissent se sauver. C'est ce que dit l'oraison. Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Et comme c'est capital de comprendre ces choses-là, donc qu'est-ce que va faire l'Église? L'Église va justement travailler pour permettre aux âmes de se mouvoir dans le bien. C'est ça le but de l'Église catholique. Permettre aux âmes de se mouvoir dans le bien. C'est la définition de la liberté que donne le pape Léon XIII. Se mouvoir dans le bien. C'est-à-dire faire une société dans laquelle les hommes qui veulent pratiquer le bien puissent le faire. L'Église ne va bien sûr pas se présenter avec une mitrailleuse ou une mitraillette derrière la tête de tous ceux qui ne veulent pas de ce bien. Et au moins que les gens qui veulent le pratiquer ce bien puissent le faire. C'est-à-dire que les hommes sages puissent se protéger de toutes les nuisances des idées modernes. On voit très bien aujourd'hui, le gouvernement français, c'est clair et net, fait tout son possible pour empêcher les âmes de pouvoir se mouvoir dans le bien, se protéger de toutes ces nuisances fausses, des erreurs, afin que, dans le but du gouvernement, que toutes les âmes vivent dans le péché en longueur de journée, et évidemment que notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à faire. Il ne puisse plus rien faire sur les âmes qu'il a créées. Rappelez-vous, Elena Blavatsky. C'était pas une sainte, hein, voilà. Elena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique autour des années 1870 à New York. Eh bien, Elena Blavatsky le disait expressément dans les constitutions de la Société théosophique, qui est une des sociétés maçonniques les plus antichrétiennes qui ait jamais existé, qui existe toujours. Qu'est-ce qu'elle disait ? Nous voulons rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre que celui-ci écœuré s'en aille. Et nous voulons, disait-elle, arracher les enfants à toute influence du christianisme. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, il faut justement que nous puissions, à toute la mesure du possible, au moins dans notre petit microcosme d'influence, dans nos familles, avec les gens qu'on connaît, qu'on puisse avoir le pouvoir d'aimer le beau, d'aimer la lumière, d'aimer la paix, d'aimer la joie, d'aimer les choses de Dieu. On voit très bien, encore une fois, dans le monde moderne, comment, si vous voulez, il sature les âmes, surtout les âmes des enfants, de laideur, d'obscurité, de pagaille, d'excitation, pour que l'âme ne puisse plus rechercher ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est vrai, ce qui est bien. Vous voyez, ce que disaient également les francs-maçons au 19e siècle, ils avaient compris ces choses-là bien mieux que nous. Vous voyez, ces phrases épouvantables qui ont été publiées sur ordre du pape Pie IX, parce que ces documents ont été transmis au pape Pie IX, mais il a pu les récupérer. Et les francs-maçons allaient jusqu'à dire, pour détruire le monde chrétien, il faut détruire la famille. Pour détruire la famille, il faut détruire la femme, le cœur de la famille. Quand on ne veut pas la détruire, on va la corrompre. Donc, corrompons le monde, disaient les francs-maçons, s'attirons les âmes de vice pour qu'ils ne puissent plus, si vous voulez, vivre en dehors de ce vice. L'expression moderne le dit bien, à force de vivre dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. Donc, si on sursature les intelligences modernes de toutes ces idées fausses, j'irais presque contrainte et forcée, les idées modernes vont pénétrer dans les intelligences. C'est pour ça que Mgr Lefebvre nous disait avec raison que nous avions tous, nous disait-il, nous avions tous été contaminés avec ces idées modernes du libéralisme depuis, disait-il, le lait de notre mère. Ce qu'on le veuille ou non, même dans la meilleure famille, on est contaminé par ces idées-là. C'est pour cela qu'on a impérativement besoin de la foi catholique, des sacrements de l'Église, de la prière, pour contrebalancer ces influences. D'ailleurs, même Monsieur l'Abbé, ces idées modernes dont vous passez, vous parlez, c'est quoi? Et on voit les portes, regardez ce qui se passe dehors, c'est exactement ce qu'on voit partout. Ces idées modernes, c'est d'abord quoi? Mais c'est d'abord le libéralisme. Le libéralisme qui consiste à donner les mêmes droits au vrai et au faux. Rappelez pour vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. La phrase plutôt des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Passion, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ? Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ ? Pilate sait très bien que Barabbas est un bandit, notre Seigneur n'est pas coupable, mais sa foyant les met sur le même pied d'égalité. C'est ça, le libéralisme. La deuxième fausse idée qui est une continuation directe du libéralisme, c'est l'esprit démocrate d'aujourd'hui, où la vérité n'existe plus en elle-même. Mais la vérité est soumise au nombre, c'est le nombre qui fait que la vérité, c'est ça la démocratie. On nous raconte, M. Abbé, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, pensez-vous. Le peuple c'est du n'importe quoi. La démocratie n'a jamais été le pouvoir du peuple, et le pouvoir du nom, c'est le nom qui fait la vérité, donc la vérité n'existe pas. Et ceci entraîne évidemment l'apostasie généralisée. Et contre toutes ces idées, qu'est-ce qu'il faut? Quel médicament qu'il faut? Le médicament, il n'y en a qu'un, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ reprenne le pouvoir de notre âme. Voilà pourquoi l'oraison dit qu'il faut envoyer des ouvriers dans notre moisson, dans votre moisson, Seigneur, pour leur donner d'annoncer avec confiance votre peuple, parole, afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée par toutes les nations. C'est ça la règne sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Pédis reprend les mêmes idées avec des mots un peu différents. Il explique que ce poison intellectuel va entraîner trois grandes erreurs. Il a parlé d'abord de l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est-à-dire une âme qui est tellement corrompue qu'elle se sent incapable d'atteindre le vrai. C'est une âme qui en arrive à dire, j'ai une intelligence, mais mon intelligence ne peut plus atteindre le vrai, parce qu'on est dans une atmosphère tellement, tellement pourrie, que mon intelligence n'est plus capable d'atteindre le vrai. Le vrai est inatteignable, agnosticisme. Et ceci, dit Saint-Pédis, va entraîner immédiatement l'immanentisme. Manere en latin, ça veut dire demeurer, in à l'intérieur. L'immanentisme, c'est l'erreur philosophique qui consiste à dire chacun fait sa vérité à l'intérieur de soi-même. Subjectivisme complet. Et ceci, bien sûr, va entraîner l'évolutionnisme. Encore une idée fausse philosophiquement parlant qui a détruit des millions d'âmes. L'évolutionnisme, tout change. Et puisque tout change, ça ne règle à rien du tout, puisque c'est une pierre qui roule constamment. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, la vérité de demain ne sera pas la vérité d'après-demain, donc il n'y a plus de vérité, et chacun en fait qu'à sa tête. Et en face à cela, qu'est-ce qu'a fait l'Église? Face à cela, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente justement un front uni pour purifier les intelligences. Le poisson, dit-on, pourrit d'abord par la tête. C'est au niveau des intelligences qu'il faut commencer par travailler. Pourquoi? Parce que l'intelligence, la foi, travaille avec l'intelligence. Donc il faut réapprendre aux gens à penser droit pour qu'ils puissent aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Saint Thérèse de l'Avila qui disait toujours « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. » Si les gens ne connaissent rien sur la foi catholique, ils ne connaissent pas leur catéchisme. Si les gens ne connaissent pas leur catéchisme, comment voulez-vous qu'il puisse arriver à la connaissance de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et donc il faut vraiment demander au bon Dieu qui nous éclaire sur toutes ces choses-là. Et ce sont ces idées que je viens de vous expliquer qui sont, si vous voulez, ces principes catholiques qui sont à la base du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous parlerons surtout dimanche prochain. La fête du Christ roi, c'est ça. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi dans la société. Le monde moderne voudrait que notre Seigneur Jésus-Christ ne soit roi que au ciel, c'est tout. Au ciel. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi au ciel, il est roi dans la nature qu'il a créée. Mais bon Dieu veut que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi dans la société de tous les jours. Donc il est roi des intelligences, roi des volontés, roi des cœurs, roi de nos passions. Et si le bon Dieu n'est pas lui-même roi des puissances de notre âme, mais c'est un autre Dieu qui va venir prendre la puissance sur nos âmes. Et cet autre Dieu, c'est qui? Cet autre Dieu, c'est le démon lui-même. C'est exactement ça qui se passe. Oui, donc les conséquences, évidemment, sont énormes. C'est pour cela que l'homme moderne est tellement opposé au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, ils veulent absolument séparer l'Église et l'État pour que l'Église catholique n'ait plus aucune influence sur les âmes et que les âmes puissent se sauver. Le but du gouvernement français en France, c'est clair et net aujourd'hui, ça ne cache même plus la damnation des âmes. Pousser les âmes en enfer le plus rapidement possible et en plus grand nombre possible. Contre ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est justement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne la condamnation, c'est du bon sens élémentaire, de la liberté de conscience. Si chacun devient son propre Dieu, évidemment, chacun va pouvoir déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, on suit sa conscience. On ne suit pas sa conscience, on ne sera pas jugé le jour de notre mort selon notre conscience. On sera jugé le jour de notre mort selon la conscience du bon Dieu. C'est le bon Dieu qui nous indique justement ce qu'il faut faire. C'est lui qui guide notre conscience. C'est pour cela que aujourd'hui, c'est en même temps, ça aussi c'est une magnifique préparation à la fête du Christ roi, c'est aussi le dimanche des missions. Alors quand on parle mission, on pense tout de suite au peuplade barbare du début du Moyen-Âge. Mais le territoire de mission, pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Le premier territoire de mission sur lequel vous devez travailler, vous et moi, nous devons tous travailler, c'est quoi? C'est notre âme. Notre âme est le premier territoire de mission. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc d'abord se remplir soi-même du bon Dieu, d'abord vivre en état de grâce, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, au moins dans notre territoire de mission personnelle, à savoir notre âme, puisse être reconnu, puisse être reconnu comme étant le roi de tout ce que nous faisons. Vous voyez, ceci est absolument fondamental. Et puis après, le deuxième territoire de mission, c'est notre famille. Qu'au moins dans notre famille, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Et comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans une famille si la famille est encombrée des choses du monde? Donc il faut enlever l'esprit du monde, qu'au moins l'esprit du monde minimum reste à la porte de notre maison, ne pénètre pas dans nos maisons, n'est-ce pas, dans nos chapelles. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi de mon âme et roi de ma famille, à ce moment-là, par la force des choses, à cause de la force de la vérité, cette influence catholique va pouvoir commencer à s'exercer autour de nous, dans le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu social que nous côtoyons tous les jours, et petit à petit, eh bien, nous serons, si vous voulez, comme un flambeau qui brûle au milieu de la nuit. Imaginez un petit flambeau qui brûle au milieu de la nuit, c'est tout petit comme lumière, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça brûle. Et ça fait un point lumineux, et les gens qui sont dans le noir complet, qui cherchent un peu le bon Dieu, et qui cherchent un peu la vérité, bien, ils vont être attirés par ce flambeau, comme les moustiques sont attirés par la lumière d'une lampe électrique en fin de nuit. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et il faut s'en rappeler, surtout en ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Vous voyez, la règle en face, c'est mentez, il restera toujours quelque chose. En face de ce mensonge organisé pour essayer d'abattre l'Église, eh bien, il faut rappeler à temps et à contre-temps les grandes vérités catholiques. Alors évidemment, il y a un gros problème. Le gros problème, c'est que ceux qui ont été, qui devraient en principe être ceux qui nous indiquent le bon chemin, qui nous protègent justement des miasmes du démon, eh bien, ceux-là même, qui normalement devraient être en première ligne pour aider à protéger l'Église, attaquent l'Église constamment. C'est malheureusement la religion de Vatican II. Et le gros problème, il est là. Le gros problème, il est là, c'est que, à Rome, on a les plus grands ennemis de l'Église, ils sont là. Et ils font, non seulement ils protègent pas l'Église catholique, ils font tout pour l'abattre en suivant toutes les idées fausses du monde moderne. Je voudrais vous donner un autre exemple qui est, à mon avis, très frappant. On le trouve dans l'Écriture sainte. Au mois de novembre, l'Église demande aux prêtres de méditer sur le livre de Daniel, entre autres. Le livre de Daniel, à partir du troisième dimanche de novembre, on médite sur le livre de Daniel, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et il y a une histoire qui est arrivée à Daniel qui est extraordinaire et qui, à mon avis, peut être appliquée pour chacun d'entre nous. C'était le successeur de Nabucodonosor en Chaldée. Eh bien, son successeur s'appelait, c'est son fils d'ailleurs, Balthazar. Balthazar était un roi aussi pourri que son père, et il avait déporté Nabucodonosor, et les rois de l'époque païens avaient déporté le peuple hébreu dans des zones complètement païennes. Et une fois, alors que Balthazar était en train de faire une grande orgie avec tous les grands de son royaume, en utilisant les vases sacrés qui avaient été volés par son père au temple de Jérusalem, voilà qu'une, dans le livre de Daniel, voilà qu'une main mystérieuse apparaît devant les milliers de personnes qui étaient dans cette grande salle de banquet et commence à écrire des mots mystérieux sur la paroi, sur le mur en face de la table où était assis le roi Balthazar. Alors évidemment, ça leur a coupé l'appétit, et puis ils ne comprenaient pas ces mots parce que c'était écrit en langue étrangère. Donc le roi Balthazar va convoquer tous ces devins du royaume pour essayer d'interpréter ces paroles. Personne n'en était capable. À ce moment, ils se sont rappelés qu'il y avait un des fils des Hébreux qui était là et qui avait l'interprétation de beaucoup de mystères. Donc on l'a appelé, c'était Daniel. Et Daniel est appelé, Et le roi lui dit, est-ce que vous êtes capable d'interpréter ces mots? Il dit, mais bien sûr, je vais vous expliquer, parce que c'est des mots qui sont écrits dans ma langue, en hébreu. Mané, tessel, phares. Mané, tu as été compté. Phares, tu as été pesé. Mané, tu as été compté. Tessel, tu as été pesé. Phares, tu as été divisé. Compté, pesé, divisé. Il a conclu en disant, tu vas perdre ton pouvoir, tu vas perdre ton royaume. Et le roi s'est pas mis en colère, alors que Daniel lui annonçait que des mauvaises nouvelles, parce qu'il savait que c'était de Dieu. Et la nuit même, les Mèdes ont envahi le territoire, et le roi Balthazar a été tué. Bien, c'est exactement notre histoire. Nous aussi, un jour, on va être compté, pesé et divisé si nous sommes trouvés manquants. Le jour de notre mort, le bon Dieu va nous placer sur une balance, la balance de sa justice, et il va mettre à côté de la balance d'un côté tous nos péchés, de l'autre côté il va mettre toutes les grâces que nous avons reçues, qu'il nous a données pendant notre vie, et on verra comment se passe, et comment si le plateau de la balance bouge dans le bon sens. Et si nous sommes comptés et nous sommes pesés et que nous sommes trouvés insuffisants, et si nous sommes comptés et pesés de façon et que nous sommes notre poids spirituel est insuffisant, à ce moment-là nous serons divisés, ce sera la chute en enfer. Il faut méditer là-dessus, méditer sur toutes ces choses qui sont tellement essentielles pour que justement nous puissions sauver nos âmes. Donc ne pas se décourager, mais se rappeler que le bon Dieu a promis que nous ne serions jamais tentés au-delà de nos forces. Donc il nous donne avec toutes les difficultés, avec toutes les tentations, toutes les désolations par lesquelles nous devons passer tous les jours, il est obligé de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Il a donné ses grâces aux premiers chrétiens, il a donné ses grâces aux apôtres, il a donné ses grâces aux disciples, il a donné ses grâces à toute l'Église pendant des siècles et des siècles, il continue de nous les donner. Bon, le problème, c'est que les grâces maintenant ne viennent plus de Rome, comme elles devraient venir, parce qu'en principe, le paratonnerre de l'Église, c'est Rome. Maintenant, le paratonnerre de Rome est devenu le paratonnerre du péché, hélas. Mais mon Dieu est toujours là. Donc, puisqu'il ne peut plus utiliser, je dirais, le pape de Rome pour transmettre justement de ses grâces, puisqu'il n'y a plus de pape à Rome depuis pratiquement la mort du pape Pie XII en 1958, mais bon Dieu, qui est tout puissant, nous donne les grâces d'une autre façon. Il va passer par les sacrements, il va passer par les rares prêtres qui vont avec la grâce du bon Dieu conserver la foi, et il va permettre que nous, vous et moi, nous puissions conserver la foi. Et c'est ça qui va ouvrir la porte du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. Nous pourrons, avec la grâce du bon Dieu, justement, être dans nos âmes grâce à tout cela. Alors, ne nous décourageons pas, mais vous savez, récemment, c'est pas très amusant aujourd'hui. Bon, peut-être, mais il faut voir les choses en face. Hein? Mais en même temps, il faut remercier le bon Dieu qui nous a donné tout ce qu'il faut. Entre autres, il nous a donné la Sainte Vierge. Hein? Vous pouvez nous donner la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, elle n'est pas loin, hein, il y a cette statue-là, elle n'est pas loin parce que là où est notre Seigneur Jésus-Christ, là où est le roi, là, il n'y a pas de séparation entre le roi et la reine. Hein. Il n'y a pas de reine sans roi, il n'y a pas de roi sans reine. Eh bien, c'est valable ce plan surnaturel. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le tabernacle, il va venir dans votre cœur par la Sainte Communion aujourd'hui. Eh bien, avec la Communion, il y a notre Sainte Vierge Marie qui vient aussi d'une certaine façon. Donc, invitez-la dans votre âme, justement, la Communion. Pour qu'elle puisse, de ses doigts féminins, de ses doigts délicats, de ses doigts de reine, de reine des cieux, qu'elle puisse achever la préparation de notre âme. Et si notre âme a été achevée d'être préparée par les doigts de la Très Sainte Vierge Marie, soyez certains que notre Seigneur Jésus-Christ va reconnaître ce travail de sa mère et va rester dans nos âmes beaucoup plus longtemps. Et si Notre-Dame vit dans notre âme, eh bien à ce moment-là, le démon ne pourra rien faire, rien du tout. Parce qu'il sait, c'est la prophétie qui a été écrite contre lui, pas la Sainte Vierge Marie, elle t'écrasera la tête. Elle t'écrasera la tête, c'était vrai autant au premier temps de l'Église qu'en vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, la Sainte Vierge Marie est forte comme une armée rangée en bataille pour écraser la tête du démon. Elle a peut-être un peu plus de travail aujourd'hui qu'elle en avait avant, mais elle continue de faire son travail. Donc ne nous décourageons jamais et mettons tout ça entre les mains du bon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.